Et maintenant, on va retrouver Bobonne, les mots croisés et la radio.
La beauté d'une voix, c'est qu'elle remplit seule une salle immense.
Restez une minute, je viens vous parler.
Je vous écoute.
Bientôt, l'heure de la révolution nationale sonnera.
Et vive la reine !
Vive la reine !
Bonjour, c'est Lucie. La reine, l'émission d'information locale de Canal B, eh bien, elle va très bientôt commencer. Et au sommaire aujourd'hui, l'info du jour, reine sur roulette dans les starting blocks. Une interview avec Marianne Kerfridin, journaliste et autrice de la dernière enquête de Splend sur la FNSEA, syndicat influent. Il y aura de la musique, dont une nouveauté, un portrait radiophonique de bénévoles. Aujourd'hui, Ludmilla et Eric de l'émission rock Take It or Leave It. Et puis, recommandation pour le week-end, un Pipe à la Pop Festival. Et 1000 braderies. Eh oui, bienvenue dans l'arène. C'est parti, l'émission d'information locale, elle commence toujours avec une info du jour, une choisie parmi plein d'autres dans les médias locaux. Aujourd'hui donc, un mot sur Rennes, sur roulette, à la veille du lancement de la 42e édition, un événement majeur des sports de glisse qui revient donc samedi 8 et dimanche 9 juin. Après plusieurs années hors de l'hypercentre pour cause de travaux, retour au lieu initial pour les courses de vitesse. Le départ est prévu Cours des Alliés avec une boucle qui ira jusqu'au boulevard de la Tour d'Auvergne avant de revenir par la rue du Puy-Mauger. Un marathon de 42 km est aussi prévu le dimanche et réunira l'élite mondiale du roller, rien que ça. Alors Rennes sur roulette se déroule cette année un jour d'élection, élection européenne si vous êtes passé à côté et qui ont lieu dimanche. Un des tracés a donc dû être modifié puisqu'il passait devant plusieurs bureaux de vote. On le lit sur le quotidien local Ouest France. Pour finir, Rennes sur roulette réunit certes des professionnels français et internationaux, mais aussi des amateurs. Ce sont en tout 7000 participants qui sont attendus. Et pour les amateurs, un parcours de 20 km est proposé samedi à 18h30, à roller, mais aussi à skate, à vélo ou en trottinette. Une rando-pop est aussi prévue dimanche matin pour les petits et les grands. Et plus spécifiquement, pour les 6-12 ans, il y aura un parcours du côté de l'esplanade Charles de Gaulle le dimanche après-midi. Tout le week-end, justement, cette esplanade, elle accueillera un village avec sur place un skatepark, un pump track en libre accès, mais aussi des initiations, notamment handisport. Le détail est à retrouver en ligne sur le site metropole.rennes.fr. Allez, après cette info du jour, on passe à une interview. Marianne Kerfridin, bonjour.
Bonjour.
Je vous présente, vous êtes journaliste indépendante basée du côté de Nantes et vous êtes l'une des autrices de la dernière enquête de Splend, notre média d'investigation breton et indépendant. Le lobbying agricole de la FNSEA à la loupe, c'est le titre de cette enquête qui a été publiée à la fin du mois de mai et toujours à découvrir en accès libre sur le site Splend, splend.org. On redit avant de se lancer dans ce travail d'enquête que vous êtes donc journaliste indépendante, que vous faites d'autres choses le reste de l'année et que vous avez par exemple signé assez récemment un documentaire qui est toujours à voir à certains endroits en ligne, on en dit un mot ?
Oui, c'était une grosse enquête pour Arte sur Ikea, le seigneur des forêts, ou devrais-je dire l'ogre des forêts, hein, qui dévore un arbre chaque seconde. Et voilà, c'était mettre en lumière le modèle et dénoncer le modèle Ikea de fast furniture qui met toujours plus de meubles sur le marché et qui, du coup, consomme énormément de bois.
Donc ça, c'est pour ce documentaire Ikea, le seigneur des forêts, réalisé et diffusé sur Arte, qu'on peut toujours voir en ligne, notamment dans une version commentée sur la chaîne Twitch d'Arte, en compagnie de Salomé Saké. Sur le sujet de l'agriculture française, j'ai vu que vous aviez déjà signé un documentaire il y a quelques années pour une émission sur une chaîne du service public. Ça, c'était en 2020. Depuis, il y a eu des choses qui se sont passées. Le secteur a été marqué par un mouvement social important en début d'année. Et il y a un acteur qui en est sorti gagnant, c'est le sujet de votre enquête, on le présente ?
Oui, alors il s'agit de la FNSEA, qui est le syndicat agricole majoritaire en France, et ce depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale. Et en fait, effectivement, il y a eu un mouvement de colère assez spontané des agriculteurs en janvier-février. Et c'est un mouvement qui est parti plutôt du sud, plutôt de l'Occitanie. Et il se trouve que la FNSEA a été un peu débordée par ce mouvement parce qu'il n'en était pas à l'initiative, mais que le syndicat a vite repris le contrôle et s'est imposé, comme il arrive toujours à le faire, comme l'interlocuteur incontournable des pouvoirs publics.
Alors le gouvernement français a déjà accédé aux principales demandes du syndicat sur des questions de stockage d'eau, sur la question des pesticides et puis aussi avec des exonérations fiscales à la clé, même si la loi d'orientation agricole est toujours en discussion à l'Assemblée nationale au moment où on se parle. Le cœur de votre enquête, c'est en fait la publication des mandats qui sont multiples de plusieurs figures clés de la FNSEA, Fédération nationale des syndicats d'exploitants agricoles. Quel temps vous avez consacré à cette enquête qui, il faut le dire, vous ne l'avez pas réalisée seule, vous étiez accompagnée d'Héléna Debré qui est aussi journaliste ?
Oui, absolument. En fait, il s'agit d'une enquête collaborative avec un média qui s'appelle Lighthouse Reports. C'est quelque chose qui se fait de plus en plus, les collaborations entre médias indépendants et médias européens. Donc là, on a travaillé avec des Belges, avec des Polonais, des Italiens, des Allemands. Et en gros, l'idée, c'était de, avant les élections européennes, de faire une enquête conjointe sur les syndicats agricoles en Europe et de montrer que finalement, si ces syndicats revendiquent représenter tous les agriculteurs, c'est pas exactement le cas. Et nous, spécifiquement à Splend, on s'est intéressé à quatre figures, dont deux figures bretonnes de la FNSEA, pour montrer en fait comment ce syndicat arrive à maintenir son pouvoir sur la politique agricole française et aussi européenne, hein, il faut le dire, en justement verrouillant un peu tous les leviers de pouvoir. C'est-à-dire que la force de la FNSEA, c'est bon, d'abord d'être élu quand même démocratiquement dans les chambres d'agriculture françaises, mais c'est aussi grâce à ces postes, c'est-à-dire ces postes qu'il obtient grâce aux chambres d'agriculture, mais qu'il obtient aussi en tant que syndicat majoritaire, ça permet en fait finalement de verrouiller tous les leviers de la politique agricole française en étant placé aux bons endroits pour faire du lobbying et puis peser sur les décisions qui sont prises par le gouvernement.
Vous vous êtes donc intéressé à quatre figures de la FNSEA. Le plus connu de ces quatre hommes, qui se trouve être celui qui cumule le plus de mandats, c'est sans doute le président, en fait, qui a été mis en lumière lors du mouvement social en début d'année.
Oui, il s'agit d'Arnaud Rousseau, hein, qui est un grand céréalier d'Île-de-France et qui a été élu président de la FNSEA, je crois, c'était l'année dernière. Et c'est vrai que c'est une figure qui n'est pas anodine, hein, puisque c'est effectivement un grand céréalier. Et puis aussi, c'est le patron du groupe Avril, hein, comme l'était avant lui Xavier Belin, hein, qui est un ancien président de la FNSEA. Et c'est vraiment, Avril, c'est un énorme groupe agro-industriel. Et donc, on s'est posé la question, enfin nous, on a voulu montrer tous les mandats qu'exerçait Arnaud Rousseau. Mais c'est vrai que cette figure du syndicalisme agricole français, beaucoup s'y sont intéressés en disant est-ce qu'il peut vraiment représenter tous les agriculteurs et notamment les éleveurs en étant à la fois patron de syndicat et à la fois patron d'un énorme groupe agro-industriel, quoi.
On précise que le groupe Avril a son siège situé tout près de Rennes et que c'est un groupe industriel qui est spécialisé aujourd'hui dans les huiles de table. Au-delà d'Arnaud Rousseau, on découvre avec votre enquête donc sur la FNSEA à la loupe, on découvre d'autres figures, Thierry Coué, secrétaire général adjoint, qui est lui éleveur de porc, André Sergent, président de la Chambre régionale d'agriculture de Bretagne et qui se présente comme un agriculteur énergiculteur, donc en plus de faire du lait et puis du porc, il est aussi, il s'intéresse à la méthanisation et au photovoltaïque sur son exploitation. Il a récemment, c'était il y a quelques années, mais reçu la Légion d'honneur. Et puis Jérôme Despet, numéro 2 de la FNSEA, lui, viticulteur. Ils ont, selon les cas, entre 9 et 22 mandats cumulés et sont donc présents dans de nombreuses institutions et organes de décision. Ça va de la santé publique à la surveillance de la qualité de l'air et de l'environnement, à la gestion de parcs naturels, mais aussi des risques industriels. Tout ça, officiellement, en fait, ça se fait au nom de la co-construction des politiques publiques.
Oui, alors, cette co-construction, elle n'est pas toujours assumée. même si Marc Fesneau, le ministre de l'Agriculture, était au congrès de la FNSEA et a clairement dit « je fais avec vous », hein, ça c'est quelque chose que les syndicats opposés ont toujours critiqué, hein, c'est la co-gestion de la politique agricole française entre le syndicat majoritaire et le ministère de l'Agriculture. Moi, quand j'avais réalisé cette enquête sur la FNSEA il y a 7 ans pour le magazine Pièce à Conviction, j'avais interviewé Dominique Bussereau qui m'avait raconté une anecdote vraiment savoureuse en me disant qu'à l'époque, c'était Jean-Michel Lemétayer qui était président de la FNSEA et qu'il m'a dit, j'avais reçu la visite, donc c'était avant d'être ministre de Jean-Michel Lemétayer, et j'avais l'impression de passer un entretien d'embauche. Et effectivement, après, il a été choisi comme ministre de l'Agriculture. Et quand son mandat s'est terminé, Jean-Michel Lemétayer est arrivé dans son bureau et a dit « Dominique, est-ce que tu veux rester ministre ?» Donc, ça en dit long quand même sur le pouvoir de la FNSEA sur la nomination des ministres de l'Agriculture. Voilà.
La question qu'on peut se poser, c'est est-ce que c'est une forme de lobbying dans votre enquête, Arnaud Clugerie, donc de l'association Eau et Rivières de Bretagne, il y répond par l'affirmative. Est-ce que le grand public ne sait peut-être pas, c'est qu'on retrouve aussi des personnalités de la FNSEA à la direction de titres de la presse agricole, que ce soit pour le magazine Terra, en tout cas jusqu'en 2022, moment de la revente, mais aussi pour ce groupe de presse Réussir, qui édite pas moins de 50 titres sur le territoire national. Il y a donc la presse, mais aussi des événements comme le Salon de l'Agriculture. Donc c'est le numéro 2 de la FNSEA qui vient d'être élu président de la société qui est propriétaire de cet événement. On pourrait se demander en quoi c'est problématique. C'est que finalement, il y a quoi ? Il y a une vision un peu hégémonique diffusée auprès d'une partie des agriculteurs français ?
En tout cas, les détracteurs de la FNSEA, c'est ça qu'ils disent, et y compris d'ailleurs des journalistes indépendants qui travaillent sur les questions agricoles, hein, qui se plaignent finalement qu'il reste très peu de titres complètement indépendants du syndicat majoritaire. Et pour certains, qui sont toujours indépendants, disent qu'ils ont des difficultés à travailler, qu'ils sont parfois entravés dans leur travail de journaliste. Et effectivement, la question que ça pose aussi, c'est dans la mesure où ils contrôlent aussi la presse agricole, ils contrôlent les événements, vous avez parlé du Salon national de l'agriculture, mais il y a aussi le SPAS, hein, qui se déroule à Rennes, qui est un événement très très important en matière d'élevage, c'est quel message ils font passer en fait. Et même si la FNSEA continue à dire qu'il y a de la place pour toutes les agricultures, ce que moi j'ai pu constater, et d'autres, hein, journalistes qui ont travaillé sur la question, comme Nicolas Legendre par exemple, avec son livre « Silence dans les champs », c'est qu'ils portent quand même une vision exportatrice de l'agriculture, donc une vision plutôt productiviste. Et quand on voit ce que la FNSEA a obtenu récemment en matière de méga-bassines, donc de rétention d'eau, ou même de la pause dans le plan éco-phyto sur la réduction des pesticides, on voit bien vers quoi ils tendent. Et même s'ils disent pas d'interdiction sans solution, qu'ils vont dire l'agroécologie a toute sa place, on voit bien que dans la réalité, c'est pas vraiment ce qui se passe, quoi.
Alors, face à ces constats, si on souhaitait peut-être rééquilibrer la situation et atténuer une forme de domination de ce syndicat qui, on le découvre avec votre travail, n'est en fait représentatif que d'un quart des agriculteurs si on prend en compte l'abstention qui est très forte lors des élections professionnelles, eh bien on pourrait imaginer une évolution du mode de scrutin à ces élections professionnelles. Les prochaines sont prévues début 2025 et c'est un moment où il se joue beaucoup de choses. Bon, a priori, c'est pas ce qui... Enfin, l'évolution qui sera réclamée par notamment des députés de gauche, ce n'est pas ce qui se profile pour le moment.
Oui, alors effectivement, un syndicat comme la Confédération paysanne, hein, qui est opposé à la FNSEA, ils disent que le mode d'élection, de scrutin du collège des exploitants agricoles au sein des chambres d'agriculture favorise celui qui arrive en tête et donc favorise la FNSEA parce qu'il y a une sorte de prime à la majorité. Donc par exemple, la Confédération paysanne va pouvoir faire un bon score en termes de pourcentage, mais finalement avoir très peu d'élus dans les chambres d'agriculture. Donc eux, ça fait longtemps qu'ils réclament un changement du mode de scrutin et effectivement, ils sont soutenus par plusieurs élus politiques. Mais ce qui se prépare là en coulisses, ce serait un décret qui favoriserait grandement le syndicat majoritaire en termes de financement. Et ça, effectivement, pour le coup, la coordination rurale et la Confédération paysanne, qui sont des syndicats qui n'ont pas toujours les mêmes idées, qui ne défendent pas forcément la même vision de l'agriculture, là, ils sont d'accord. Et le MODEF, qui est un plus petit syndicat, les trois sont d'accord pour dire si ce décret passe, ça va tuer les syndicats minoritaires parce que l'argent, les subventions publiques vont aller majoritairement à la FNSEA. Pour l'instant, on ne sait pas ce que devient ce décret. On avait évoqué le fait qu'il puisse être promulgué en juillet. On n'a pas de nouvelles, mais effectivement, s'il était promulgué, ce serait un coup dur pour les syndicats minoritaires.
Une dernière question, donc dans cette enquête qui a retrouvée en ligne sur le site splande.org et qui nous parle du lobbying agricole de la FNSEA passé à la loupe de votre travail là, journalistique. Plusieurs fois, donc la FNSEA, Fédération nationale des syndicats d'exploitants agricoles, ne souhaite pas, répondre à vos questions pour alimenter un peu là votre travail. Même si on a quand même les mots d'un des acteurs, je ne sais plus sur quel sujet, peut-être avec André Sergent, je crois, ou Thierry Coué. Mais il y a quand même souvent la carte du silence qui est jouée.
Oui, alors nous, on a été étonnés, c'est vrai, de ne pas avoir de retour de la FNSEA qu'on a sollicité avant la publication de notre article. Hein. On a respecté le contradictoire. Par contre, il faut quand même souligner que André Sergent et Thierry Coué ont volontiers répondu à nos questions et avaient des arguments pour se défendre. Ce que je voulais vous dire, c'est qu'en tout cas, effectivement, on sait en tant que journaliste que quand on s'attaque à un syndicat aussi puissant, qui a des liens très forts avec l'agro-industrie, moi, pour vous donner un exemple, quand j'ai fait ce documentaire il y a 7 ans pour Pièce à conviction sur France 3, la FDSEA du Cantal m'a attaqué en diffamation. Voilà, ils m'ont intenté un procès, ce qu'on appelle des procès bâillons, parce que je suis journaliste indépendante, donc préparer un procès, ça me prend du temps, ça a un coût pour la société de production qui doit prendre en charge l'avocat. Ils avaient attaqué aussi 2 agriculteurs qui témoignaient dans mon film. Alors, heureusement, j'ai gagné ce procès haut la main et j'en suis ravie. Mais c'est vrai qu'ils n'hésitent pas, quand ce que les journalistes font ne leur plaît pas, à attaquer en justice.
On vous représente, Marianne Carfidin, vous êtes journaliste indépendante et donc l'une des autrices de la dernière enquête de Splande, ce média d'investigation breton indépendant, le lobbying agricole de la FNSEA à la loupe. C'est à lire toujours donc en accès libre sur splande.org, ça a été publié fin mai. Et on rappelle que les dons des lecteurs sont toujours les bienvenus pour que Splande continue à mener ce travail nécessaire pour une information éclairée auprès des Bretons et des Français. Merci beaucoup.
Merci à vous.
Madame avec le morceau La Meute à l'instant sur Canal B, une nouveauté musicale qui dépote, repérée par Yann, notre programmateur musical ici à la radio. Et ce titre, vous pouvez le retrouver sur l'album Thanks for the Noise. C'est sorti en avril en autoproduction et c'est le premier disque pour ce trio toulousain et féminin qui envoie, je trouve, et que vous venez d'entendre dans l'Arène, l'émission d'information locale de Canal B, un programme qui se poursuit avec un portrait. Ce que vous allez entendre, c'est un portrait radiophonique de bénévoles à Canal B. Une façon de mettre en lumière les petites mains passionnées qui animent l'antenne aux côtés de l'équipe salariée. Les autres portraits sont d'ailleurs à retrouver en ligne sur canalb.fr dans l'article qui est consacré aux 40 ans de la radio, puisque c'est notre anniversaire cette année. Aujourd'hui, Ludmila et Eric nous racontent les coulisses de l'émission Take It or Leave It, un programme qui s'écoute chaque dimanche à 11h. Et la prochaine émission, dimanche 9 juin, ce sera la 100e.
40 ans, non ce n'est pas possible. 40 ans, 40 ans, 40 ans, 40 ans. Mais 40 ans déjà, je n'ose pas le croire. 40 ans, 40 ans.
Oh si c'est pas mignon.
Salut à tous, vous écoutez Take It or Leave It sur Canal B. Et quelle surprise, c'est enfin la
100e. Bonjour, moi aussi je dis bonjour.
Pendant
que Ludmila danse dans le studio.
Mais ça fait très longtemps qu'on s'est pas retrouvé pour ouais. L'émission. Donc là c'est la 100e.
Elle s'est fait désirer celle-là.
Ah la vache, on l'a bien préparée. Et oh, on va vous faire une émission spéciale Party.
Voilà, ça va être la fête.
Ludmila, ici à Canal B depuis 2013, donc il y a un peu plus de 20 ans. Qu'est-ce que je fais dans la vie, moi? Alors, à part faire de la radio pour le plaisir, je suis DJ que peuvent-y, donc je passe de la musique dans des bars, dans des salles de concert pour essayer de faire danser les gens.
Bonjour, je m'appelle Eric, j'ai arrêté de boire il y a... Bonjour, je m'appelle Eric, moi je suis journaliste, je travaille dans la presse musicale, dans Rock et Folk, pour pas nommer le magazine, et j'enregistre une fois par semaine cette belle émission avec Ludmila, et on s'amuse bien depuis 4 ans.
Vous êtes tous les deux rennais ?
Tous les deux rennais.
Oui, on habite tous les deux Rennes, moi je suis pas rennais d'origine en l'occurrence, mais voilà.
On commence peut-être avec Ludmila. Comme tu es là depuis un petit peu plus longtemps, comment est-ce que tu as peut-être découvert Canal B ou est-ce que tu la connaissais avant d'y arriver comme bénévole?
Alors oui, complètement, parce que moi j'ai fait... Bon, je viens de Saint-Malo à la base, mais j'ai fait mes études à Rennes et dans ma petite chambre d'étudiant, j'écoutais Canal B, figure-toi. Et donc c'était... je dis pas trop les années parce que je suis intemporelle, hein, on dit
bien
jamais
sûr.
Mon âge, je n'ai pas d'âge. Donc je suis arrivée bénévole à Canal B avec un ami de l'époque qui m'avait proposé de faire une émission avec lui. Cette émission s'appelait Up the Bracket, elle n'existe plus, on a changé de voix, donc maintenant j'ai cette nouvelle émission Take It or Leave It avec Eric.
Et donc Eric arrivé plus récemment, tu connaissais déjà la radio ?
Alors moi avant de vivre à Rennes, je vivais à Paris, je connaissais Canal B comme une émission de la Ferrarock parce que je suivais un peu l'actu du réseau. Voilà, après quand je suis arrivé à Rennes, j'avais pas forcément d'ambition de faire de la radio, mais je connaissais Ludmila que je croisais souvent au même concert quand Up the Bracket s'arrêtait, elle m'a proposé de devenir son nouveau binôme et
bon, après, j'ai un peu ramé.
Bah ouais, parce que les négociations salariales ont un peu traîné. Mais bon, finalement, là, on a su trouver un terrain d'entente. Et là, j'ai un contrat de 4 ans qui arrive à expiration, donc on verra.
Ouais, on va réfléchir voilà, si tu re-signes ou pas.
Voilà.
Et pourquoi il a fallu que tu réfléchisses? Quels étaient les freins? C'était le fait d'être à un micro ou, comme tu es déjà journaliste, tu es quand même habitué, j'imagine, un peu à l'exercice de communication.
En vrai, j'avais fait des interviews, mais en tant qu'invité. Et j'étais pas forcément à l'aise avec ça, à vrai dire. Mais je sais pas. Avec Ludmilla, je savais que ça allait bien se passer, en fait. Je n'ai pas hésité très longtemps, hein, cela dit. En fait, ce qui s'est passé, ce qui a fait que ça a traîné un peu, c'est qu'on a envisagé ce projet de radio ensemble au moment du confinement. Donc avant que ça se concrétise vraiment, qu'on puisse revenir en studio, c'était un peu compliqué, quoi. Et puis en plus, après, il y a eu un deuxième confinement qui a fait qu'on a dû s'équiper, acheter une carte son et tout ça pour pouvoir continuer d'enregistrer à la maison.
C'est vrai.
Et on s'est plutôt bien débrouillé, je trouve. En tout cas, on a appris sur le tas à progresser.
Bonsoir à tous, bienvenue à la cinquième de l'émission Take It or Leave It sur Canal B. Une émission confinée, enregistrée un peu avec les moyens du bord. Voilà, il y a quelques petits désagréments, mais aussi l'avantage d'avoir un frigo à bière à proximité.
Les petits cubis de vin, l'appareil à raclette peut être prêt pour un petit dimanche soir sympathique.
On va être beau à la fin de l'émission. Par quoi allons-nous commencer cette émission aujourd'hui, Ludmilla ?
On va commencer avec un morceau plein de poésie. I'm not your mother, I'm not your bitch, de Courtney Barnett.
I'm not your mother, I'm not your bitch, I hear your mother under your breath.
Et le rapport à ta voix, toi, Ludmilla, facile dès le début de parler devant un micro?
Bah, je t'avoue que en 2013, au tout début, quand j'ai commencé, c'était un peu compliqué, mais en fait, je me suis vite habituée, ça me dérange pas du tout de m'entendre. J'essaye de parler correctement. Enfin, j'espère qu'on m'entend bien et qu'on me comprend quand je parle et que j'ai pas une voix trop désagréable. Mais non, je suis très à l'aise avec ma voix.
Comment est-ce qu'on présente votre émission à ceux qui ne sont pas encore tombés dessus ?
L'idée, c'est de... On dit des conneries en écoutant des disques qu'on aime bien. Voilà. L'idée, c'est de faire ça dans la bonne humeur, sans se prendre au sérieux. Mais quand même, on est assez sérieux sur le sujet de la musique.
C'est ça, ouais. Il y a beaucoup de recherches quand même.
On a des avis assez tranchés.
Oui.
Donc d'où aussi un peu le titre Take It or Leave It. On fait pas trop dans la demi-mesure, mais on se prend pas au sérieux.
Et le titre de l'émission vient d'un morceau des Strokes, on imagine.
Voilà, bah, il y a eu débat pour trouver le nom de l'émission. On a passé
une
grosse soirée au pub à essayer de trouver le nom. On avait plein d'idées, mais il fallait trouver ce qui nous correspondait le mieux. Et finalement, je crois que ça nous correspond très très bien.
Bah oui.
Et en termes de genres musicaux, on est plutôt sur du rock. Dans toutes ses couleurs.
Exactement.
Oui, oui, non, c'est une émission rock. Un peu quand même, on aime bien quand les guitares qui sont cracra, on est plutôt garage.
Oui, garage, rock indé.
On aime bien les trucs un peu électroniques aussi. On n'hésite pas, en fait, on a chacun, avec ce qui est rigolo avec Ludmilla, c'est qu'on a des goûts assez différents et qu'on aime bien un peu essayer d'emmener l'autre sur les territoires qu'il n'aime pas trop aborder. Et c'est parce que nous, on rigole dans la friction, en fait. Quoi.
C'est quoi les territoires que vous n'aimez pas, respectivement ?
Alors, moi, j'aime pas les Smiths.
Moi, j'aime pas le Velvet Underground.
Et moi j'aime beaucoup la musique électronique, les synthés qui font foin, et j'essaye d'en passer, mais ça marche pas toujours.
Ouais, moi je suis plus, alors sur l'électro c'est plus tatapoum pour moi.
Ouais, toi c'est tatapoum, mais moi j'aime pas trop.
C'est ça.
Les groupes les plus diffusés dans Take It or Leave It ?
Idols, je pense. C'est le groupe préféré de tous les temps de...
Alors, ouais, bah moi, j'allais dire Ty Segall, parce que c'est un artiste que Eric aime beaucoup aussi.
On n'a pas passé tant que ça.
Je dirais, bah, on a passé pas mal de Strokes, les Libertines, ouais, on a passé du Blur. On a quand même passé tout l'album quasiment de Yard Act.
Ouais, le premier.
Mais le premier album. Hein. Donc, je pense que quand il est sorti, c'était bah, il y a 2 ans.
Un de vos derniers coups de cœur, peut-être pas parmi les groupes que vous avez le plus diffusés, mais peut-être sur des choses plus confidentielles. Ou alors même à travers les années, qui est resté et que vous avez découvert par le biais de l'émission.
Oh, ça, on en a plein. On a plein de losers magnifiques.
Ça y est, Eric, je l'ai. C'est Wesley Gonzalez.
Bah oui.
Je crois que c'est notre chouchou, en fait, que personne ne connaît.
Mais il vient pas en France, il donne pas de concerts et il fait des beaux albums une fois par an, en plus des fois avec des gens un peu connus. Donc il est un peu reconnu dans le milieu, mais alors tout le monde s'en fout.
C'est un Anglais qui vient de Londres et qui fait de la pop musique, hein, je dirais.
Ouais, un peu étrange.
C'est l'album de notre l'ancien chanteur d'un groupe qui s'appelait Let's Wrestle.
Ouais, et on va commencer tout de suite avec un morceau qu'on avait déjà passé, qui est un des meilleurs morceaux de l'album, je trouve, et qui s'appelle Wax Limousine, comme l'album.
C'est parti. Il y a parfois de l'interview enregistrée pendant votre émission ou c'est assez rare ? Non.
En plateau, non. Non. Des fois, on a eu des invités qui sont venus. On a Maxwell Farrington qui est venu un jour. J'ai des copains journalistes aussi. On a fait des interviews en extérieur.
Mais pas forcément pour notre émission. c'était plus pour la Ferra Rock ou pour un plateau route du rock.
Il y a Gus Engelhorn qu'on était allé voir à Nantes, qu'on avait enregistré et qu'on a eu un fail d'interview, donc l'interview n'est jamais passée.
C'est vrai, j'avais oublié ça, ouais.
Pourquoi fail d'interview ?
Parce que une histoire de bouton et d'enregistrement raté, alors
de micro mal branché.
Je pense que c'était l'interview de notre vie et de la vie de Gus, parce qu'il nous a dit « Mais merci, cette interview était formidable, un artiste canadien ». Et il était vraiment content. Moi, j'avais vu au Bistrot de la Cité à Rennes et j'avais dit « Eric, on y retourne ensemble, on va à Nantes, on fait une interview parce qu'il a l'air super chouette et c'est intéressant. » Et voilà, on est un peu revenu très désappointé d'avoir
on
perdu.
On a l'interview, mais elle n'est pas radiodiffusable. Le son est trop mauvais.
Ouais. Elle est dans notre tête. C'est notre souvenir.
Donc l'émission, elle est diffusée le dimanche à 11h. Depuis 2020, vous enregistrez l'émission à un autre moment dans la semaine. Comment est-ce que vous construisez l'émission avant d'arriver en studio ? Est-elle construite ? C'est peut-être pas le cas.
Bien sûr, on l'est construit. Alors après...
Alors, on a connu quand même des débuts beaucoup plus sérieux, faut le dire. Au début, on était diffusé le dimanche à 18h et on était en bimensuel. On a voulu quand même mettre le paquet parce qu'on était à fond, on avait plein d'idées. Donc depuis septembre 2023, on est donc tous les week-ends à 11h le dimanche. Et là, on aime bien préparer quand on se voit directement au studio. En fait, on se donne rendez-vous, on n'a pas d'horaire fixe parce que bah, par rapport à nos boulots respectifs avec Eric, on n'a pas forcément des emplois du temps très fixes.
On avait essayé à un moment d'avoir genre, allez, on se dit tous les jeudis, on vient à telle heure, mais non, ça ne marche pas.
Donc ça marche mieux quand on se dit, bah, écoute, rendez-vous à la radio à telle heure quand le studio est dispo. On essaye de faire une semaine sur deux, une semaine actualité, une semaine thématique. Donc quand c'est la thématique, on a plein d'idées, ça vient un peu plus facilement. Quand c'est actualité aussi... Mais c'est vrai que des fois, on aime bien se retrouver en fait pour préparer ensemble.
Et comment vous nourrissez un peu, vous parlez d'actualité, il y a des structures, des réseaux que vous suivez pour rien manquer des genres qui vous intéressent ?
Bon, alors moi déjà, étant journaliste, je reçois beaucoup de sollicitations des attachés de presse. Donc déjà, je suis très nourri à côté de ça, mais après, moi j'aime bien continuer à chercher, aller chez les disquaires, même aller traîner sur Bandcamp, chercher des mots-clés. Puis des fois, on tombe sur des trucs totalement par hasard en soirée, et on aime bien et on se retrouve à passer des morceaux comme ça, un peu out of the blue. Enfin, c'est beaucoup à l'instinct quand même.
C'est ça, et puis ben, on suit aussi beaucoup de groupes depuis longtemps, bon, qui deviennent peut-être un peu vieux maintenant, mais par rapport à leur actu, donc ouais, s'ils sortent un nouvel album qu'on va pas forcément aimer, mais on va aussi peut-être voir ce que eux ils écoutent en ce moment. Donc ça va nous faire découvrir d'autres groupes qu'on ne connaissait pas forcément. Il y a les concerts aussi, les festivals. Mmh. On va beaucoup voir des spectacles.
Quand même.
Donc pas forcément qu'on connaît, juste par hasard ou dans un bar ou dans un festival. Donc c'est là aussi qu'on découvre pas mal de choses.
Après, on parle pas trop de la scène rennaise pour le coup. Il y a quand même beaucoup d'émissions qui le font. Enfin, c'est pas qu'on aime pas les groupes rennais, on les adore.
C'est déjà évoqué ailleurs.
Oui,
quoi.
Exactement. Voilà. Bonjour à tous et bienvenue pour la 99e de Take It or Leave It sur Canal B, 99 seulement.
99 Eric.
Ouais, donc c'est pas la centième, la prochaine ce sera un numéro un peu spécial. On a prévu, non on a rien prévu pour l'instant mais on verra
on le
bien.
Fera, on va le faire, on va la faire cette bamboche de centième, on vous tient au courant. Ce sera peut-être pas au moment, le même week-end que la diffusion de l'émission, mais on va... On va fêter ça, j'ai envie de dire.
Ben ouais, on va faire la fiesta. Non pas la fiesta, mais plutôt la bomba, peut-être.
Mais oui, on va faire la bomba. Quelle belle transition, Eric Delsar.
Merci.
Avec le nouveau single des londoniennes, Los Bichos.
Londoniennes du Sud, hein, quand
oui,
même.
Oui, voilà.
Côté argentin de Londres, quoi.
Elles habitent quand même toutes à Londres.
C'est vrai.
Dire. Et donc voilà, on va écouter tout de suite leur nouveau single qui s'appelle La Bomba, Los Bichos. Un autre raté aux Lévitations, il y a 2 ans, on avait demandé une interview du groupe Tinia, un groupe anglais qu'on aime beaucoup, qui n'existe plus d'ailleurs, on comprend pourquoi maintenant. Donc le chanteur arrive et attend ses camarades, et il en a marre d'attendre, donc il nous dit bah, « je vais les chercher ». Et au final, lui n'est jamais revenu, et les musiciens sont venus, mais c'était un peu plus compliqué parce que c'était vraiment le chanteur, le cerveau et le compositeur.
Qui chante des chansons très personnelles.
Du groupe, donc bon, on a quand même fait l'interview avec les musiciens, mais lui n'est jamais revenu. Est-ce qu'on a une bonne histoire d'interview en fait ? Je crois pas. Oui. Ça doit s'entendre, on a une bonne complicité. Et oui, on passe toujours, c'est toujours un plaisir de venir enregistrer et de se retrouver pour, voilà, pour parler de musique, de nos petites histoires de concerts, de plein de choses, découvrir des choses ensemble. Donc, c'est toujours un bonheur.
Quel regard vous portez aujourd'hui sur la radio qui est Canal B ? Souvent, les bénévoles viennent enregistrer leur émission et selon le créneau, croisent pas forcément beaucoup d'autres bénévoles ou salariés. Est-ce que vous percevez quand même une dimension, je sais pas, collective au projet ?
C'est marrant. À un moment, quand on avait des spots d'enregistrement, on croisait tout le temps les mêmes personnes. Donc là, ça crée du lien à force de voir une personne de l'autre côté de la vitre. Mais après, il y a quand même, on essaie d'être un peu plus présent aux âgés et tout ça pour... Bon, c'est quand même chouette de voir les camarades des autres émissions. Après, il y a eu des trucs chouettes. On a été invités dans d'autres émissions aussi. On a été invités par Purple Rain, qui aime bien aussi faire du lien avec les autres émissions. J'ai l'impression qu'il y a une bonne solidarité quand même.
Ah bah oui, bah moi, effectivement, dans ceux qu'on croise. Après, il y a des émissions qu'on ne croise pas, qui enregistrent le soir, la nuit, ou qui viennent faire du direct même la nuit. Donc, on ne connaît pas encore tout le monde, malheureusement.
Là, vous venez d'enregistrer votre 100e émission.
Ouh !
Vous avez des retours d'auditeurs ?
Bah on croise des gens, c'est marrant.
On a surtout un retour d'un animateur de Canal B qui nous fait un petit bilan chaque semaine. C'est Bertrand de Un Poco Too Much qui, en général, nous dit... Or, si on a dit une connerie, je peux dire qu'on le sait directement. Ou alors pour nous féliciter, pour dire « Oh, bah, j'ai redécouvert tel groupe ». Donc, je pense que c'est peut-être lui, notre auditeur number one.
Non, mais en général, les gens qu'on croise apprécient l'émission. Hein.
Oui.
Après, le créneau qu'on a choisi aussi, c'était dimanche matin, c'est l'émission à la cool, à écouter pendant qu'on fait la popote, quoi.
Non, on aime bien, ouais, le 11h où les gens se réveillent le dimanche, voilà, pour écouter de la pop.
En faisant le pot-au-feu, quoi.
Voilà, en ouvrant les huîtres.
La meilleure émission à écouter en faisant un pot-au-feu, t'es quitte en limite.
On s'arrêtera là-dessus.
On se quitte avec quoi, Eric ? Avec quelque chose que j'adore.
T'adores les fleurs ?
Oui, j'adore les fleurs.
On va se quitter avec cette chanteuse hollandaise qui chante en français et qui s'appelle Fleur. Voilà, c'est une copine de Frankie, c'est toute une espèce de petite scène locale par là-bas, aux Pays-Bas, au pays des tulipes. Et donc le morceau qui envoie un message qui semble m'être adressé s'appelle « Tu es un être parfait ».
Évidemment.
Voilà, et c'est toujours vachement bien, c'est du rock garage, ça sonne comme si ça avait été fait dans les années 60 et c'est chouette.
Et bien sur ces belles paroles, Eric.
Oui.
On écoute Fleur avec Tu es un être parfait.
Et on se dit à bientôt.
Bye bye.
Tous les jours que tu fais, je te veux à mes pieds. Tu es un être parfait. Je te veux la journée assis à mes côtés. Tu es un être parfait. Allez, donne-moi ta main. Oh, quel entrain. Je te veux, oui, c'est certain. Écoute-moi s'il te plaît, regarde mes lèvres bouger. Tu es un être parfait. Reste à m'écouter jusqu'à l'heure de thé. Tu es un être parfait. Allez, donne-moi ta main. Oh, quel entrain. Je te veux, oui. C'est certain. Peux-tu me parler ayant si m'avoué que je suis un imparfait? S'il vous plaît, regardez et dites que vous voyez un être parfait. Allez, donne-moi ta main. Oh oui, quel entrain. Je te veux, oui, c'est certain. Dis-toi que c'est le destin. Tu me veux, oui, c'est certain. Je t'attends, chérie. Allez, dis-moi ce que je veux attendre. Tu sais ce que je veux attendre. Ne me fais pas attendre plus longtemps. Dis-le-moi.
Tu es un être parfait, c'est Fleur qui le dit
à l'instant sur Canal B. Ce morceau, il a retenu l'attention de l'équipe de Take It or Leave It la semaine dernière. Ce titre, vous pouvez le retrouver pour le moment sur un 2 titres qui est sorti au mois de mars. Un aperçu, en fait, d'un album qui est attendu pour un petit peu plus tard dans l'année. Vous êtes dans l'arène, l'émission d'information locale de Canal B. Une émission qui vous tend son micro si vous avez des actions ou des événements à annoncer aux auditeurs, qu'il s'agisse de vie étudiante ou rurale, d'actions culturelles, de lutte environnementale ou sociale, tant que ça s'inscrit dans le champ de l'information locale et que ce n'est pas visé purement lucratif, vous pouvez m'envoyer l'info par email à l'adresse lucie@canalb.fr. Et ensuite, je reprends contact avec vous pour vous proposer une interview ici en studio, pourquoi pas un reportage sur le terrain, et on peut aussi l'annoncer plus brièvement sous forme de recommandation du jour, et c'est l'heure. Et oui, avant de se quitter, la recommandation du jour quand même, à chaque fois en fin d'émission, des petits conseils d'événements à vivre dans la région rennaise, parfois aussi des idées lecture, podcast ou encore documentaire. Aujourd'hui, 2 conseils, il y a d'abord le Pipe à la Pop Festival à vivre ce vendredi 7 et samedi 8 juin au Jardin Moderne à Rennes. C'est la 3e édition de cet événement imaginé par l'association des Pichicailles. Je crois qu'il reste des places et on retrouvera sur scène entre autres Holiday Ghost pour du garage rock, Lime Crush plutôt indie pop ou encore Andrew Savage avec une couleur folk. La programmation elle se veut pointue avec des artistes pop rock indé, français comme internationaux. Il y a aussi une projection de documentaire organisée samedi après-midi à l'Institut franco-américain. C'est le film The Elephant Six Recording Company qui sera projeté. Et tiens, eh bien Canal B est sur tous les bons coups. Vous pourrez entendre Yann en direct du Pipe à la Pop Festival ce vendredi de 18h à 19h, juste après cette émission, et c'est sur Canal B, bien sûr. J'ai aussi noté plusieurs braderies ce week-end, c'est ma passion, je vous l'avoue. Il y a d'abord la traditionnelle vente de printemps chez Emmaüs à Aidé-Bazouges. Samedi 8 et dimanche 9 juin, des milliers d'objets seront vendus à petit prix, des livres, des meubles, de la vaisselle, mais aussi des vêtements ou encore des jouets. Tout le week-end, il y aura aussi de la musique et des jeux pour les enfants et puis de quoi boire et manger, une façon de soutenir le projet d'Emmaüs pour la dignité de chacun. J'ai aussi repéré dimanche 9 juin une grosse braderie un peu plus classique qui est organisée dans le quartier Sainte-Thérèse à Rennes, et puis pour les autres rendez-vous, vous irez chercher vous-même. Allez, bon week-end. La Rennes, c'est terminé. Une émission d'information locale qui se veut réflexive et combative à écouter sur Canal B du lundi au vendredi à 17h et en rediffusion à chaque fois le lendemain à 8h. Pour le podcast, rendez-vous sur canalb.fr. Je vous laisse là-dessus. Salut.